Okay. Bonsoir à tous les amis, on est en live sur Paris Central pour débriefer donc ce PSG-Metz, victoire du PSG du coup, 3-1, on a eu une première mi-temps un peu délicate, hein. On était tous un peu en furie, une deuxième mi-temps un petit peu mieux, on va en discuter tous ensemble, bonsoir à tous dans le chat. Alors oui, c'est moi qui hoste ce soir, hein. C'est une première, il y a beaucoup plus de canards dans l'équipe que vous ne le pensez, sachez-le. Mais on est là quand même, hein, pour faire le taf ce soir, même malade, désolé si ça s'entend à ma voix. Donc bonsoir à tous dans le chat, n'hésitez pas à liker, hein. Comme d'habitude, on s'installe, on dit bonsoir, la politesse et le petit like qui fait plaisir. Et donc, on est ce soir avec Kevzor et Bobo, les amis, comment ça va?
Très bien, hein. Ça va être au récord, tranquillement.
Ouais, ça va, on sort doucement du Covid, mais ça va. En tout cas, il y a eu un match donc, du PSG ce soir et une victoire, tant mieux. Mais qu'est-ce que vous avez pensé déjà, dans un premier temps, de la composition? Je sais qu'elle a fait pas mal de débats. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé déjà de cette composition et aussi de cette première mi-temps? On va commencer par Kevzor, ordre des caméras.
Du coup, la composition, en fait, on se pose beaucoup de questions en fait avec Luis Enrique, c'est qu'il met en place une composition qui sort dans les médias, mais tu ne sais pas en fait quelle animation elle va être. Donc, on a joué dans une espèce de 3-5-2, 3-6-1, sans latéraux, sans joueurs de couloir, avec un Warren qui, sur une phase défensive, était des fois latéral droit, des fois comblait un petit peu l'espace intérieur. C'est une composition un peu inhabituelle avec Colo côté droit et Barcola côté gauche. Ils ont interverti à la 25e, 30e minute de jeu. Un truc moi, qui m'a choqué, c'est Marquinhos qui n'avait jamais joué axe gauche sous Luis Enrique et qui s'est retrouvé axe gauche avec Skriniar axe droit. Donc, beaucoup de choses en fait qui ont été… Il y a beaucoup de questions. Encore une fois, je pense du Luis Enrique typique, pas du bricolage, mais il nous sort de son chapeau quelque chose d'inhabituel. Et force est de constater que la première mi-temps est catastrophique et que ça n'a pas fonctionné.
Et toi, du coup, Bobo?
J'ai un peu le même constat. Hein. J'ai du mal à comprendre où est-ce qu'il veut aller. J'ai l'impression que ça fait 5-6 matchs qu'on est un peu dans le labo permanent de Luis Enrique, mais je n'arrive pas à voir des axes d'amélioration. J'ai du mal à comprendre où il veut aller. Là, pareil, ouais, comme Kevzor a dit, on avait Barcola plus ou moins piston gauche, Colomwani plus ou moins piston droit avec Lee qui traîne un peu sur le côté, Warren Zaïre-Emery qui est plus ou moins latéral droit, on ne comprend pas trop. J'ai du mal à comprendre où il veut aller avec cette compo.
Ouais, d'un point de vue personnel, c'est ce que je disais, c'est que si c'est un laboratoire en fait, sur cette première partie de saison et qu'en deuxième partie de saison, tu commences à mettre un 11 et vraiment t'appuyer sur ce 11-là, sur tes idées que tu as pu voir en première partie de saison, c'est quand même mieux. Tu auras des automatismes, tu vas pouvoir travailler mieux, etc. Et il y a des joueurs qui auront un peu plus l'habitude de jouer ensemble et qui vont pouvoir travailler des circuits de passe, se trouver les yeux fermés, etc. Mais le problème, c'est que là, en tout cas pour l'instant, du coup, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements à chaque fois. Et il y en a, c'est vrai que je ne comprends pas. Alors offensivement, par rapport aux changements qu'il peut mettre, on peut essayer de deviner un petit peu pourquoi du comment il fait certains choix. Mais c'est vrai que là, par exemple, défensivement, il te change Marquinhos, il te met axe gauche, il te remet la défense tracteur. Tu n'as aucun vrai latéral de métier. Donc c'est vrai que c'est difficile à comprendre par moment. Par contre, il y a quelque chose quand même qui m'énerve un peu dans cette première mi-temps, c'est le bus. Et ça, franchement, à un moment donné, il faut en parler parce que personnellement, je ne suis pas partisan de la Super League. Mais quand je vois que chaque week-end, on joue contre des équipes, bon là, ce n'est pas le week-end, mais chaque match de championnat quasiment, à chaque fois que tu joues face à un bus où ils sont 15 derrière, où même l'entraîneur, s'il pouvait se mettre derrière et défendre, il le ferait. Franchement, c'est catastrophique. Et le pire, c'est que Metz, quand ils se découvrent, ils prennent des buts, mais ils ont des occasions derrière et qu'au final, ils finissent limite avec des regrets à se dire « Ah putain, on aurait peut-être dû jouer avant ». Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment relou. Après, malheureusement, dans cette première mi-temps, c'est aussi là-dessus que tu vois que malheureusement, ton équipe a des carences face à des blocs bas. Mais ça, du coup, on va en parler. Qu'est-ce que tu as ressenti?
Je suis pas forcément d'accord avec toi, Léco. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que, depuis le début de la saison, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont été joueuses contre nous. Par rapport aux saisons précédentes, tu as quand même Rennes qui a joué, l'OM qui a joué, Lens qui a joué, Lyon qui a joué.
Ah oui, mais tu parles de grosses équipes.
Non, mais je te parle globalement. Tu vois, les coachs adverses savent que sous Luis Enrique, tu vas avoir la possession du ballon, un plan de jeu stéréotypé, nanani, nanana. Et je trouve que depuis le début de la saison, mis à part quelques équipes, mais qui se sont un petit peu enchaînées sur les derniers week-ends, tu as quand même, je trouve, sur les 18, enfin les 17 équipes de Ligue 1 que tu peux affronter, tu en as quand même plus de 10 qui n'ont pas été chercher le bus pour moi. Je trouve quand même que, tu vois, c'est réducteur de dire qu'il n'y a que des bus en Ligue 1, en sachant que, voilà, Metz, c'était vraiment pas intéressant ce qu'ils ont proposé. Mais je veux pas non plus qu'on tombe dans cet aspect-là où la Ligue 1 ne met que des bus. Cette année, moi, je trouve que ce n'était pas le cas, sauf 5-6 équipes qui vraiment c'était abominable, comme Metz ce soir. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, carrément. Moi, j'ai le sentiment inverse, mais après, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Bobo? Est-ce qu'on met trop le bus en face de nous ou pas? Ou...
Bah, moi, je trouve que sur les derniers matchs, globalement, on n'a pas joué contre des équipes exceptionnelles. La Metz était particulièrement faible. Là, pour le coup, je trouve que ce soir, ils n'ont pas proposé grand-chose. Ouais, là, pour le coup, sur ce soir, clairement, je rejoins. Après, sur le recul global, je n'ai pas vraiment d'avis.
Bah, moi, je trouve qu'il y a quand même une différence, surtout en Ligue des Champions. Quand tu vois les matchs qu'on fait en Ligue des Champions, on a beaucoup d'occases, il y a beaucoup plus d'espace. Et en Ligue 1, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que la plupart mettent quand même le bus. Après, il y a des équipes joueuses qu'on compte quand même, je trouve, sur les doigts d'une main, notamment Reims, par exemple, parmi les petits, entre guillemets, hein, parce que même Brest joue cette année. Ouais, Brest, ouais. Et après, bah, tu as cité Rennes, Monaco, tout ça, c'est des équipes qui jouent. Mais bon, bref, en tout cas, globalement, dans tous les cas, tu dois trouver les solutions, parce que j'avais vu un commentaire passer, mais dans tous les cas, on allait y venir. Dans tous les cas, tu dois trouver les solutions. Et dans cette première mi-temps, on n'a clairement pas. Voilà, bon, tiens, c'était ce commentaire-là, donc tant mieux. Dans tous les cas, tu dois trouver les solutions toi-même. Et d'ailleurs, c'est le jeu de Luis Enrique est fait pour ça, justement. Malheureusement, dans cette première mi-temps, on a pu voir toutes les carences de cette équipe. Et on a livré une première mi-temps vraiment catastrophique. On aurait pu tous s'endormir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? À quoi c'est dû, etc. Dites-moi tout. On va commencer par Bobo.
Moi, je trouve, mais par rapport à cette première mi-temps et globalement par rapport à ce que je trouve depuis quelques matchs, moi, il y a un truc qui me dérange dans ce côté labo, c'est que je trouve qu'on avait des belles perspectives en début de saison. On voyait des choses qui commençaient à être bien. Moi, je trouvais de l'engouement pour cette équipe, dans le sens où il y avait un pressing collectif, il y avait de l'engouement, il y avait une volonté de jouer ensemble, il y avait un couloir droit qui se créait beaucoup de dangers, il y avait Ugarte qui avait stabilisé un peu le milieu de terrain, on commençait à trouver une cohérence avec un pressing, avec des récupérations de balles hautes. Et j'ai l'impression que toutes ces pistes qui, moi, généraient de l'engouement dans le jeu du PSG en ce début de saison, ben, je les retrouve plus du tout. Je les retrouve plus du tout. Donc là, j'ai l'impression que depuis une dizaine de matchs, on est dans un espèce de labo où on ne comprend pas trop ce qu'il fait et que tous ces axes qui étaient ressortis naturellement en début de saison, ben, ils ne ressortent plus. Et du coup, on a un jeu collectif qui est bien moins bon qu'en début de saison, je trouve. Et du coup, les performances individuelles, ben, celles qui sont moins bonnes, elles ressortent d'autant plus. Ça fait Lee, encore aujourd'hui, il fait un match correct, mais ça fait 5-6 matchs où c'est vraiment très moyen. Skriniar, pareil, il y a des pertes de balles au niveau des relances où c'est pas possible. Je trouve que du fait que du niveau collectif on soit moins bon, ben, il y a des performances individuelles qui ressortent vraiment moyennement. Kolo Muani, c'est techniquement aujourd'hui encore, il se donne, hein, mais techniquement techniquement c'est catastrophique. Et en plus de ça, au milieu de ces prestations individuelles qui sont, ben, je trouve qu'ils ressortent de moins en moins bien. Mbappé, je le trouve de plus en plus déconnecté de l'équipe. Dans les matchs, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus de numéros de soliste, où ben, tu as même l'impression quand il a le ballon, les mecs veulent plus courir parce qu'ils savent qu'il va finir son action en solo. Tu as Barcola qui tente encore parce qu'il est jeune, il doit prouver, il fait encore les appels sur le côté gauche, mais il les fait sans conviction. Donc Mbappé déco de l'équipe. Et à côté de ça, tu as des joueurs type Mukiele, type Ramos, où je me dis, putain, ces mecs-là, j'aimerais un peu plus les voir. J'aimerais qu'on essaie de jouer avec eux parce qu'ils peuvent apporter, je pense, dans l'équipe. Et on ne les voit pas, alors que tu as d'autres mecs qui restent sur le terrain, alors que je trouve qu'ils n'apportent pas grand-chose depuis plusieurs matchs. Donc je comprends pas trop, en fait, ce qu'il fait. Je comprends pas trop.
Et toi, Kevzor?
Bah déjà, sur la première mi-temps, concernant ta question, les carences, elles sont visibles parce que déjà, tu mets pas de vitesse dans ton jeu, tu touches trop le ballon. Un gars comme Kylian a beaucoup décroché, mais il faisait minimum 6, 7, 8 touches de balle à chaque fois. Ce qu'il a corrigé en seconde mi-temps et ce qui nous a permis aussi d'accélérer un petit peu le jeu. Je pense que le système tactique qu'a mis en place Luis Enrique n'était pas bon en première mi-temps, qu'il l'a rectifié. Il y a eu beaucoup trop de déchets. Et malheureusement, techniquement, il y a des joueurs en fait qui ont entre guillemets un totem d'immunité. Je vais dire Kangin Lee, parce que comme l'a dit Bobo, il ne fait pas de très bons matchs dernièrement. Mais en fait, il faut aussi voir l'aspect du projet de Luis Enrique. Kangin Lee, malheureusement ou heureusement, c'est le profil de joueur typique que Luis Enrique apprécie. C'est un joueur qui est bon techniquement, qui est quand même très mobile, qui essaie de jouer souvent de l'avant, etc. Mais si tu prends son profil qui est très intéressant dans le jeu de Luis Enrique, je pense que la corrélation aussi entre le niveau de jeu que demande le PSG, elle est quand même, il y a encore pour le moment un écart. Il n'est pas au niveau de ce que demande en fait ce projet, mais son profil correspond à ce qui nous manque dans ce PSG au milieu de terrain. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais on voit de toute façon clairement que Kangin est un joueur apprécié de Luis Enrique. Donc c'est pour ça, contrairement à d'autres qui sur un plan technique sont moins bons dans les petits espaces, dans les grands espaces, etc., etc. Maintenant, je te dis ce soir, ce qui nous a manqué, c'est vraiment la justesse technique, plus de mobilité. On avait beaucoup trop de joueurs arrêtés dans les 30 derniers mètres. Ça manquait d'appel. C'était très individualiste. Tu vois, un gars comme Barcola, que je protège beaucoup, qui pour moi fait quand même de bonnes prestations depuis le début de saison, a été catastrophique aujourd'hui. Il a dû centrer 8-9 fois. Mais en fait, il n'y a pas eu. Non, mais regarde, quand tu fais des diffs en un contre un, mais si derrière, à chaque fois, la dernière passe, elle n'est pas bonne, il n'en a jamais été dans le bon tempo, il n'a jamais été connecté une seule fois à l'appel de son attaquant. Il n'y a
Il y a
pas un de
beaucoup de
ces. Ouais, mais il y a un nombre de. Il a fait quand même pour moi beaucoup trop de centres dans le dos de l'appel dans la surface. Malheureusement, ça ne trouvait pas preneur.
avec
Donc,
l'exemple de
moi,
l'Omani en première.
voilà. Et même
Ah,
avec
mais
Mbappé.
celle-là pour moi, elle est pour Colomouani, mais on y reviendra.
On y reviendra. Mais pour moi, je suis un grand fan de Barcola. Hein. Donc, hein, j'exagère sur les traits. Hein. Mais Barcola doit beaucoup mieux faire quand il rentre dans la surface, sur ses centres qu'il fait. C'est un joueur qui, en termes de qualité technique, doit être en capacité de mettre de meilleurs ballons. Un gars comme Vitinha, sa première mi-temps est bridée par son positionnement. Il y a tout un tas de choses qui font que cette première mi-temps n'est pas bonne. Et pour moi, c'est l'aspect technique qui fait voilà, tu passes totalement au travers. Le nombre de ballons que Mbappé aurait pu recevoir dans le dos de la défense, qui finalement se retrouve en 6 mètres, dans les bras du gardien, trop court, trop long. Ah, je suis désolé, on est le PSG. On doit avoir une certaine maîtrise technique, une qualité technique bien au-dessus de ce qu'on a vu ce soir.
Moi, pour défendre un peu l'équipe, c'est-à-dire qu'on en parlait au début avec la composition, c'est qu'il y a tellement de changements que je pense que individuellement, ça ne doit pas être évident, puisque forcément, ça nuit au collectif d'avoir à chaque fois autant de changements. Là, ce soir, bah, t'as pas, mine de rien, depuis le début de la saison, ton côté fort, c'est le côté droit avec Hakimi et Dembélé. Et aujourd'hui, tu n'as aucun des deux. On l'a déjà vu déjà, Hakimi sans Dembélé, c'est compliqué. Mais là, pour le coup, il n'y avait aucun des deux et je pense que ça s'est ressenti. En plus de ça, du coup, bah, y a eu pas mal de changements. Même défensivement, tu retrouves une défense avec Danilo et Skriniar et on sait que les deux ensemble, ce n'est pas forcément aider l'équipe. Il y avait Lucas Hernandez aussi qui était sur le banc. Il y a Warren, qu'on n'a pas vu quasiment du match, qui malheureusement a dû dépanner latéral droit, même si sur les phases de construction, on le voyait au milieu de terrain. Mais évidemment, Warren n'est pas dans son jeu habituel et dans son fauteuil habituel, donc on l'a moins vu. Donc pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses qui font que bah, on a une première mi-temps égale à ce que Luis Enrique a mis en place. Et donc forcément, ça a été très compliqué. Puis pareil avec Mbappé tout seul en neuf, on le sait, c'est pas son poste. Tout seul devant, c'est trop compliqué pour lui, ça convient pas à l'équipe, ça aide pas l'équipe. Et donc on va pouvoir du coup enchaîner sur du positif et cette deuxième mi-temps. Avec moi, ce qui m'a marqué, c'est la conférence, pas la conférence de presse, mais l'interview à la mi-temps de Zaïre Emery qui a dit les termes, clairement, il manque de la prise de risque, il manque de la vitesse, il manque de la qualité technique, de la justesse technique. Et au final, sur la deuxième mi-temps, on a retrouvé ça avec aussi un changement tactique, puisqu'on a retrouvé Kolo Muani dans l'axe avec Mbappé, Barcola et Kanginli qui collent les côtés, et donc deux milieux de terrain. Et là, on a commencé à se créer des occasions et on a marqué des buts. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième mi-temps avec ces changements tactiques-là, justement? Et on va commencer par Kevzor cette fois.
Ben déjà, en fait, pardon, hein, sur l'image arrêtée de l'entame de seconde mi-temps, je vois en fait un système qui est totalement différent. En fait, on joue dans une espèce de 3-5-2, 3-6-1 à la Guardiola avec Manchester City l'année dernière, c'est-à-dire 3 centraux, tes deux ailiers, en fait, Kanginli un petit peu à la Bernardo Silva et Barcola à la Grealish, et de la densité au milieu avec un point d'appui autour de ton attaquant. Mais même en fait, c'est difficile de dire qu'il y a eu un vrai changement parce que tu marques très vite. Tu marques très vite, ça te découvre le match. Et si on n'avait pas marqué aussitôt, peut-être que ça n'aurait pas été pareil. Mais aujourd'hui, je vois que ce que veut mettre en place Luis Enrique, ça va sûrement prendre beaucoup de temps, même si je n'étais pas du tout satisfait de ce qu'il a mis en place sur la première mi-temps. Mais surtout, qu'il n'a peut-être pas les joueurs qu'il aimerait avoir. Kanginli, ce n'est pas Bernardo Silva. Barcola, ce n'est pas Grealish. Mbappé, ce n'est pas Haaland, en fait. Et nos milieux de terrain ne sont pas De Bruyne, Rodri, Gundogan qu'il avait l'année dernière, ou autre en fait. Et c'est là où je trouve que Luis Enrique va devoir aussi, même si cette seconde mi-temps lui donne raison, hein, mais bon, c'était que Metz en face, il va falloir aussi que Luis Enrique s'adapte à l'effectif qu'il a et qu'éventuellement aussi les joueurs élèvent leur niveau de jeu. Parce que je trouve qu'il y a une différence entre ce que lui veut mettre en place et ce que les joueurs sont en capacité de faire par rapport au poste dans lequel ils évoluent. Et c'est là, en fait, que je me pose pas mal de questions. Est-ce que ce soir, il n'envoie pas un message aussi à sa direction en disant, moi, je veux jouer de telle manière et j'ai besoin aussi de tel profil? Ou bien est-ce qu'il est vraiment têtu, ou un mix des deux aussi, hein, peut-être, et qui veut forcément s'entêter dans beaucoup de choses? Voilà, la seconde mi-temps est plus intéressante. Techniquement, c'était plus intéressant. Mbappé a joué aussi en une ou deux touches de balle, notamment quand il était trouvé dos au jeu, il s'appuyait de suite sur le joueur en soutien, ce qui permettait de mettre de la vitesse. Mais encore une fois, j'aurais aimé voir ce qui se serait passé si on ne marquait pas aussi vite en seconde mi-temps, parce que forcément, Metz est obligé de se découvrir. Ça change la totalité des plans, quoi.
Et toi, Bobo, du coup, cette deuxième mi-temps avec ces changements tactiques?
Ben, moi, je suis complètement d'accord avec Kevzor. Luis Enrique a raison en deuxième, mais il a raison en deuxième parce qu'il a tort en première. Du coup, pourquoi tort en première? Enfin, c'est ça qui me dérange un petit peu. Enfin, je pense que même avec les joueurs qui sont là aujourd'hui, même si Dembélé n'est pas là et tout, tu as moyen de faire mieux par rapport aux axes de progression qu'on a vu en début de saison. Je comprends pas l'intérêt de faire ce qu'il fait en première mi-temps, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on voit la compo étant une demi-heure avant le début du match, et on sait presque le type de bouillie qu'on va avoir. Et après, en deuxième, bah, tu remets un peu plus les mecs à leur poste, bah, forcément, ça joue un peu plus, on voit plus de choses. Même si c'est pas flamboyant, on voit plus de choses. Donc, il a raison en seconde, pour moi, parce qu'il a tort en première. Et du coup, je comprends pas, quoi.
C'est vrai que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on voit la compo de base et qu'on sait que Metz va venir et avoir des intentions clairement de défendre, mais tu sais qu'avec cette compo-là, il va te manquer du monde dans la surface, tu sais qu'il va te manquer de la créativité, tu sais qu'il va te manquer du surnombre. Donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Mais au final, les ajustements qu'il fait en deuxième, bon, bah, ça marche bien. Et c'est un petit peu logique quelque part. Parce que, après, pour moi, je trouve que Kevzor, tu es assez dur là-dessus parce que le but qu'on met, il n'est pas anodin. Parce que le but qu'on met, mine de rien, Vitinha qui se projette, il peut marquer ce but. Pourquoi? Parce qu'on a dans la surface Mbappé et Kolo Muani. Et voir dans la surface, proche du point de pénalty, des appels de Mbappé et de Kolo Muani, c'est très rare. Et c'est eux qui permettent de libérer l'espace pour Vitinha, qui se projette et qui marque. Donc au final, d'avoir deux attaquants, et notamment un avec Mbappé, mais tu vois quand même que ça aide l'équipe et que ça te permet de marquer là où, en première mi-temps, on le voyait, il y avait à chaque fois les deux centraux, ils étaient tranquilles. Mbappé, il dézone. RKM, on lui demande en première mi-temps d'être sur le côté. Donc c'est très compliqué. Même si Lee était axial et qu'on le trouve mieux axial, au final, RKM sur un côté, c'est très compliqué. Donc moi, cette deuxième mi-temps, je la trouve plus intéressante. Et on a vu des joueurs aussi prendre beaucoup plus de risques, notamment Vitinha, sur qui on va revenir notamment dans nos tops, je pense. Mais en tout cas, moi, cette deuxième mi-temps, je la trouve un peu mieux. Et puis c'est pareil pour Kylian qui marque ce but. D'où vient ce but? Demi-espace gauche. Et on ne le répète pas assez, je pense, pour certains qui n'arrivent toujours pas à comprendre, que Kylian Mbappé, ce n'est pas un joueur qui peut jouer seul en pointe. Oui, il peut dépanner. Oui, techniquement, il n'est pas dégueulasse. Donc, il peut jouer en remise. Il comprend un peu le jeu et tout. Donc, il peut se débrouiller. Mais là où il est le meilleur, c'est demi-espace gauche. Il a toujours été ailier gauche depuis le début. Il a toujours été bon. Quand il était devant avec Monaco, il y avait Falcao à ses côtés. En équipe de France, il y a Giroud. Et c'est là où il excelle. Alors, oui, il y a un problème après au niveau défensif. Mais c'était pareil avec CR7, avec le Real Madrid. Et ils se sont adaptés. Et ça ne leur a pas empêché de gagner je ne sais combien de Ligue des Champions avec CR7, je crois 5. Donc, après, c'est à toi aussi de trouver les solutions. Quand on avait Neymar côté gauche, il y avait Matuidi qui venait sur ce côté-là. Bref, on trouvait des solutions avec d'autres 11 un peu plus tôt. C'était pareil, on trouvait d'autres solutions. Donc, après, c'est à Luis Enrique de trouver les solutions. J'espère qu'en deuxième partie de saison, il y aura un peu moins de laboratoire parce que, mine de rien, bah, tout ça joue aussi d'avoir à chaque fois des changements de système, des changements de joueurs. Ça aide pas les joueurs, c'est des humains comme nous. Et forcément, si à chaque fois on te change tes consignes, on te change ta place, c'est pas évident. Donc voilà, mais je trouve en tout cas cette deuxième mi-temps un peu plus encourageante.
Mais tu vois,
Par contre, il y a eu. Ouais, vas-y, vas-y.
Par rapport à ce que tu disais, par rapport à compenser Mbappé en début de saison, on avait des pistes qui étaient intéressantes avec Mbappé sur le côté gauche. Tu avais Asensio qui avait plus ou moins bien marché dans l'axe. Ensuite, il a lancé Ramos, ça a plus ou moins pris, mais tu avais un début d'embryon de solution où Vitinha couvrait un peu le couloir d'Mbappé, tu avais Lucas Hernandez qui était plus défensif que Hakimi, donc mine de rien, sur le côté gauche, défensivement, on était relativement back-upé. Tu avais Mbappé qui était un peu déchargé, qui pouvait traîner du coup dans l'axe au cas où il y avait une ballon, récupérer un ballon, qui pouvait partir en profondeur, il faisait moins le travail défensif, mais on avait un début de solution de compensation avec Vitinha qui protège un peu le côté et Lucas Hernandez qui reste plus défensif. Tu avais un début d'embryon de solution et tu avais Asensio ou Ramos qui pouvaient jouer dans l'axe en neuf. Pourquoi tu ne pousses pas cette idée où tu as un début de truc qui fonctionne? C'est ça où j'ai du mal. Tu as trouvé une compatibilité où Mbappé est dans sa meilleure zone, attaquant gauche, relativement déchargé des tâches défensives. Pourquoi tu ne pousses pas là-dedans? Pourquoi, puis si on sait que c'est une solution qui ne va pas durer dans le temps, pourquoi ça fait 4-5 matchs qui se retrouvent dans l'axe avec Asensio qui est revenu il y a presque un mois maintenant qu'on ne voit pas, avec Gonzalo Ramos qui alterne entre il a une petite maladie, il revient, il fait un bon match à Monaco, ensuite on ne le voit plus. Pourquoi ça en fait, alors qu'on a un début de solution qui nous semblait tous crédible?
C'est vrai que le cas Gonzalo Ramos, c'est assez incompréhensible. Alors on nous a parlé d'une maladie, mais la maladie, elle a duré quand même un petit temps. Hein. Alors c'était peut-être un Covid long, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait un petit moment. Là en plus, le pauvre, il rentre quoi? Il rentre 3 minutes, je crois. Il rentre dans le temps additionnel quasiment. Au final, il se crée d'ailleurs une grosse occasion. Je ne sais pas si. Comment?
Il fait un super appel, honnêtement.
Ouais, il fait un super appel, mais c'est un appel de numéro 9 et très souvent, ça se voit que ça manque. Donc, on verra ce qu'il va faire en deuxième partie de saison Luis Enrique, mais c'est clair que ben, ça manque d'un numéro 9 et on le dit depuis longtemps. On en a acheté deux. Malheureusement, il n'y en a aucun pour l'instant qui font l'affaire, selon Luis Enrique en tout cas. Et sur le terrain, c'est vrai que par moments, c'est assez compliqué. Il y a aussi un aspect sur lequel c'est très compliqué. On a encore pris un but sur corner. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on le répète à chaque match, c'est compliqué, quoi.
Voilà, ce qui me gêne le plus sur cette phase de jeu, c'est que tu as Asensio qui doit être en capacité de couvrir ce premier poteau au 5-50. Et en fait, tu mets un mannequin, c'est la même chose. Je suis désolé, mais le corner n'est pas excessivement bien tiré. Warren n'est pas au marquage, mais Asensio, dans ses 5-50, il doit... Tu vois, il est à l'angle des 5-50 et je suis désolé, Asensio, il doit faire beaucoup mieux. Il voit que le ballon est un peu court, il a juste à faire deux pas en avant pour prendre le ballon de la tête ou du moins gêner le joueur qui va venir dans cette zone. Et là, en fait, je te le dis, pour moi, ça, c'est une erreur de concentration parce que tu es à 2-0. Étant donné que tu avais 80% de possession du ballon sur la première mi-temps, tu penses que tout est fini, tout est plié. Et finalement, tu feras un poteau rentrant à l'opposé, tu vois, d'une tête qui vient plus ou moins de nulle part parce que elle est extrêmement difficile à placer là où il la met. Mais là, Asensio, il dort debout. Je suis désolé, au 5-50, il dort debout. Ça, c'est... Bref.
Et toi, Kevzor, Bobo, ton avis là-dessus au niveau des corners et le nombre de CPA qu'on a pris?
Sujet récurrent, hein. Je vais me répéter un peu, mais manque d'intensité, ensuite pas les marquages. Enfin, là-dessus, c'est des scénarios qui se répètent, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a même un l'aspin. Il va falloir, je dirais, le travailler. Et au-delà de le travailler, peut-être même recruter par rapport à ça. Parce qu'en Ligue des Champions, ça peut jouer. Il y a des matchs très, très serrés. Alors, peut-être pas pour cette année, mais si tu veux aller loin, des fois, ça se joue à rien. Ça se joue à un coup de pied arrêté. Ça se joue à une tête sur un corner. Et mine de rien, on est quand même très, très défaillant à ce niveau-là. En Ligue 1, on prend souvent des buts. Et en Ligue des Champions, on est la dernière équipe carrément dans cet aspect-là. Donc, si on veut un jour gagner la Ligue des Champions sous Luis Enrique, il va falloir recruter peut-être des joueurs un peu plus grands. Parce que, mine de rien, c'est difficile de leur en vouloir. Franchement, non. Skriniar. Il n'est pas là, Skriniar, sur le but.
Je parle globalement. T'as quand même des joueurs. Tu vois, un gars comme Marquinhos, normalement, n'est pas mauvais de la tête. Mmh. Danilo n'est pas mauvais de la tête. Skriniar, il nous a été quand même aussi vendu parce que pas mauvais de la tête. Et
on le voit pas. Huberté,
c'est pareil. Il a quand même de la taille.
Le problème, c'est que des joueurs de taille, t'en as très peu à part Danilo et Skriniar. Et souvent, en tout cas en Ligue des Champions, tu n'auras pas les deux. Donc déjà, plus d'1m90, tu n'en auras aucun sur le terrain. Parce que je crois que même il n'y a que Skriniar peut-être qui dépasse le 90 et des bons joueurs de tête dans le jeu aérien, t'en as très peu. T'as Lucas, Marquinhos qui sont en plus pas très grands. T'as qui d'autre? T'as Danilo ou Skriniar et puis c'est tout ouais, au final. Ouais. T'as aucun latéraux de taille. Ah, si t'as Mukiele, s'il joue,
c'est très moyen de la tête. Hein.
Ah, ouais, bah en plus, c'est ça le pire, c'est qu'en plus, il ne gagne pas ses duels. Et la plupart, après, c'est des petits. Au milieu de terrain, tu n'as que des petits. Devant, ouais. Même si tu as un peu de taille, ils ne sont pas forcément bons de la tête, que ce soit Colomwani ou Mbappé. Tu as Ramos, mais il ne joue quasiment pas. Donc c'est compliqué. Ouais, en plus. Et quand tu vois des équipes en face, comme le Bayern, Manchester City, etc., qui ont des grands et des bons joueurs de tête, que ce soit en défense, que ce soit les latéraux, que ce soit au milieu de terrain ou devant, bah forcément que ça peut te coûter une place en demi ou en finale un jour. Cet aspect-là, à mon avis, au-delà de le travailler, de travailler tes systèmes défensifs à l'entraînement, je pense qu'il va falloir aussi recruter des joueurs de taille et qui sont bons dans ce domaine-là. Parce qu'en plus du fait que ça peut t'empêcher que ça te soit préjudiciable, bah ça peut aussi t'aider hein, positivement et te permettre de marquer des buts aussi. Donc ça pourrait être une bonne chose de penser à ça. Ensuite, bon, je pense qu'on va finir, avec les tops et flops. Trois tops chacun et puis on finira par les flops. Je te laisse commencer, Bobo, trois tops.
Je sais pas si je vais en avoir trois. Il y a Vitinha, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est le joueur le plus constant depuis le début de saison. Il fait ses matchs, je trouve qu'il n'est pas forcément happé par ce truc collectif. Quand on baisse un peu les bras, moi je trouve qu'il fait quoi qu'il arrive, lui, sa prestation, ça reste cohérent, il apporte toujours offensivement, il y a toujours une ou deux frappes par match qui se permet maintenant, donc je trouve ça c'est bien de ce point de vue-là. Au top, honnêtement, Danilo fait son match. Mais tu vois, on va retomber sur les soldats, entre guillemets. Danilo fait son match. Et du coup, il se retrouve dans les tops. Mais
voilà, rien d'exceptionnel, quoi. Mais c'est parce qu'il fait son match.
Il a fait son match, il a gagné ses duels. Il a relancé à peu près rapidement. Il n'y a aucune bourde. Il fait son match. Du coup, il se retrouve dans les tops avec Vitinha. Et sinon, honnêtement, j'en vois pas vraiment d'autres. Hein. Je vois plus des flops sur ce match.
Ok. Et toi, Kevzor, 3 tops, est-ce que tu en vois un peu plus ou pas?
Moi, je mettrais Mbappé avec Vitinha. Après, je mets personne d'autre parce que. Tu vois, en fait, défensivement, tu vois, Marquinhos, Danilo et Skriniar font leur match parce qu'on n'a quand même pas trop été mis en danger. Je mettrais Skriniar un peu en dessous des deux. Mais bon, Danilo, il peut ne pas avoir de chance du tout et marquer contre son camp, contre le cours du jeu. Tu vois, ça aurait été vraiment très, très dur pour lui. Il a quand même fait un match convenable. Tout comme Marquinhos, ils ont quand même essayé de jouer de l'avant, essayé de casser des lignes, etc. Mais bon, voilà, après... Warren, tu peux aussi le mettre dedans. Il a quand même fait un match, je trouve, intéressant, sans plus. Pour moi, les deux joueurs, tu as Vitinha qui sort vraiment du lot et tu as quand même Mbappé qui te met deux buts. Donc, en étant double buteur, malgré que sa prestation ne soit pas exceptionnelle, pour moi, il fait quand même partie des tops. Mais si je dois vraiment sortir deux joueurs ce soir, ce serait Vitinha et Mbappé.
Ouais, bah après j'ai quasiment la même chose. Vitinha, il a fait un gros match, meilleur deuxième que première. Mais c'est un peu tout le paradoxe de ce Vitinha que des fois on voit un peu timoré, qui a du mal à prendre des risques. Sur la première mi-temps, on voit bien plus Kanginli tenter des passes compliquées que lui, et c'est dommage. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi, il manque de personnalité. Et puis, souvent, soit en deuxième mi-temps, soit quand il rentre. On le voit bien meilleur, avec beaucoup plus de personnalité, il tente beaucoup plus, il a fallu donner 2-3 caviars. Non, franchement, Vitinha, en deuxième mi-temps, vraiment très très bonne. J'aime beaucoup ce Vitinha-là et j'ai l'impression qu'il monte vraiment en puissance, qu'il prend de plus en plus de personnalité dans cette équipe. Donc ça, c'est une bonne chose, mine de rien. Deuxième co-meilleur buteur avec Colomwani, si je ne me trompe pas. 3 buts de plus que l'année dernière aussi, si je ne me trompe pas. Donc, franchement, Vitinha, satisfaisant. Et Mbappé, il met quand même un doublé, dont un but assez stratosphérique. D'ailleurs, il en met un aussi où on peut qualifier ça de pressing, mais en tout cas, c'est une belle anticipation. Et quand il est concerné, j'espère que ça pourra mentalement lui faire défendre un peu plus ou être plus concerné, en tout cas pour gêner les premières relances, parce que mine de rien, ça lui a offert un but cadeau. Donc je vais quand même mettre Mbappé dans mes tops. Et puis en troisième, tu as cité Danilo. Moi, je vais citer Barcola, justement, parce que je ne suis pas d'accord avec vous, dans le sens où...
Barcola, je l'avais dit.
Ok, pas d'accord avec Kevzor alors, parce que pour moi, Barcola, alors déjà, je le trouve toujours très juste, et sur ce match, je l'ai trouvé aussi très juste, déjà parce qu'en première mi-temps, c'est le seul qui fait des différences. Sans lui, il ne se passe rien de la première mi-temps. Et là où je trouve que c'est lui faire un faux procès, c'est que je trouve que c'est plus les attaquants qui font de mauvais appels ou qui ne comprennent pas le jeu que lui. Dans le sens où c'est criant sur la première action, notamment la quatrième, je crois, avec Colomwani, il déborde, il centre en retrait, Et le jeu, il est de centrer en retrait. Et Colomwani fait son appel, et au lieu de faire l'appel contre appel, et donc rester ensuite en retrait, comme l'a déjà fait Mbappé, et le fait souvent, c'est un modèle du genre, ben lui, il continue sa course, alors que Barcola ne peut pas lui mettre, parce qu'il y a très peu d'espace entre le défenseur et le gardien. Donc le jeu, ce n'est pas de lui mettre ici, c'est de lui mettre en retrait. Et Colomwani, au lieu de s'arrêter, ben, il continue. Alors si tu as quelqu'un qui vient dans son dos, tant mieux, et l'appel de Colomwani est bon parce qu'il a attiré un défenseur, sauf que Colomwani doit prendre l'information qu'il n'y a personne dans son dos et que du coup, il doit faire appel contre appel. Et donc, c'est plus moi là-dessus où je dis que pour moi, Barcola, c'est plus ses coéquipiers devant qui ont été à contresens du jeu plutôt que lui qui a été imprécis dans les derniers gestes. Et en plus, c'est lui qui fait le plus de différence devant et qui dynamite vraiment la défense. D'ailleurs, Luis Enrique l'encourage à continuer à chaque fois et il le fait très bien. Donc moi, je vais mettre Barcola dans les tops.
Et il crée des espaces avec ses appels. Hein. C'est le seul qui continue. Quand Mbappé a le ballon, c'est le seul qui continue à faire des appels couloir gauche et il couvre du champ à tous les autres. Alors que la plupart des autres s'arrêtent quand Mbappé a le ballon. Non, pour le coup, je te rejoins là-dessus.
Les gars, en fait, il faut aussi juger par rapport à la prestation globale. Ce soir, Barcola, il a quand même énormément de déchets. Moi, je le trouve, tu vois, d'habitude très, très juste sur sa première touche de balle. Ce soir, il n'a pas été bon sur cet aspect-là. Même si Colo doit faire un meilleur appel à ce moment-là, il a quand même fait énormément de mauvais centres, Barcola. Moi, je trouve que ce soir, Barcola, par rapport à ce que je vois d'habitude, ce n'est pas suffisant. Non pas qu'il ne fait pas un mauvais match, hein, mais il ne fait pas non plus un bon match. C'est un match mitigé où, pour moi, tu ne peux pas le mettre dans le top parce qu'il y a encore trop de déchets et ce n'est pas suffisant. Moi, j'en attends plus de Barcola parce que c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur, je trouve, qui a vraiment de très grosses qualités. Mais ce soir, pour moi, c'est insuffisant par rapport à ce que j'attends de lui.
Insuffisant, ça me parle.
Non, mais je peux l'entendre. Après, même pour le défendre lui et même Kanginli, mais ce n'est pas évident. Là, Kanginli, tu vois, sur le but où il trouve Vitinha, il centre. Et on le voit très souvent, d'ailleurs, Kanginli, dans les matchs précédents, on le voyait très souvent centré. Et Barcola, d'ailleurs, avec ses centres aussi. Mais ce n'est pas évident dans le sens où, tu sais, ils n'ont pas de numéro 9, ils ont pas grand monde dans la surface très souvent. Non, c'est juste pour ajouter ça, parce que ça m'y fait penser par rapport à Barcola et même à Kanginli, que je vois très souvent centré. Et malheureusement, comme il y a peu de solutions dans la surface, ce n'est pas évident. Il n'y en a toujours qu'une ou deux, grand max. Donc, ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, au moment où tu as un surnombre, où tu as juste trois mecs dans la surface, on arrive à marquer. Donc, comme quoi, le fait d'avoir du monde dans la surface, c'est important. Et ça aide aussi les centreurs. Et du coup, ton analyse, elle peut être différente puisqu'il peut y avoir des passes dés ou en tout cas trouver preneur à tes centres. Du coup, on va enchaîner sur les trois flops. Kevzor, je te laisse commencer. Trois flops.
Bah, en tête de liste, je m'Ugarte parce que je ne sais, je me rappelle là, si on parle d'Ugarte, je ne sais même pas s'il a joué ce soir. Tu vois, à un moment donné, je veux bien. Hein, il fait des courses pour essayer de contrer certaines contre-attaques, etc. Il a fait. Cinq bons matchs en début de saison, on s'est tous enflammés. Depuis, c'est un fantôme. Il ne nous sert à rien sans ballon, il ne nous sert à rien avec ballon. Et à un moment donné, je veux bien, tu vois, il y en a beaucoup qui critiquent Colomwani, à juste titre, bien entendu, parce que ses performances sont pas top. Mais Ugarte passe au travers, passe dans les mailles du filet depuis trop longtemps. Je suis désolé, ce soir, encore une fois, c'est une catastrophe, Ugarte. Moi, il me fait de la peine. Non, tu vois, je le mets en tête de liste. Ugarte ce soir, pour moi, on a joué à 10 parce qu'il ne nous servait à rien. Et alors, bon, bien sûr, je grossis les traits comme j'ai l'habitude de le faire, mais voilà. En deuxième flop, c'est difficile tant globalement l'équipe n'a pas forcément été bonne. Je ne voudrais pas forcément citer deux joueurs. Je pourrais citer Colomwani, mais je n'ai même pas envie de le mettre ce soir parce que l'image arrêtée sur Colo quand il sort m'a fait vraiment beaucoup de peine. On sent que c'est un joueur qui est hors de confiance totale. Il est vraiment pas bien. Ça se sent de toute façon les traits du visage, le regard vide. Ça, franchement, hein, c'est rare que je suis vraiment pas quelqu'un qui s'est touché par beaucoup de choses sur cet aspect-là. Mais là, en tant que joueur du PSG et fan du PSG pour ma part, ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. Ça m'a fait de la peine. Donc j'espère que les vacances et les fêtes de fin d'année, s'il l'est fait ou retrouver sa famille un petit peu, etc., va lui permettre de se ressourcer, de se remettre dans le sens du football. Mais franchement, je ne veux même pas le mettre en flop parce que là, vraiment, j'ai eu beaucoup de peine pour lui quand il est sorti. Et quand ton attaquant sort à la combien, 56e, 60e, je ne sais plus exactement.
66,
pardon. Ouais. C'est que voilà, le coach actuellement, il a fait un choix. Et donc voilà, mais je mettrai que Ugarte parce que les autres ils ont été moyens globalement, Et voilà, mais Ugarte, il n'a pas été moyen moins. Il a été nul
Ouais,
moins moins.
okay. Ok. Et toi, Bobo, est-ce que tu partages ça ou tu en as d'autres?
Ouais, moi j'en ai un par ligne. J'ai Skriniar, Ugarte, Kolomoani. Skriniar parce que on est face à Metz, il y a zéro pressing et il perd encore un ou deux ballons bêtes comme il nous a fait en Ligue des Champions il y a une semaine. Donc tu te dis, mais avec ce niveau de pressing-là, s'il arrive à perdre des ballons, il ne gagne pas les duels de la tête. Au début de saison, il arrivait quand même à gagner ses duels malgré qu'il ait une gestuelle un peu particulière. Souvent, il sortait gagnant des duels. Là, il sort de moins en moins gagnant des duels. Oh, ça commence à faire beaucoup là. Skriniar, franchement, là, les prestations récentes, c'est chaud quand même. Là, on est vraiment limite. Ugarte, parce que transparent. Parce que ce qu'il apporte concrètement, c'est j'ai envie de dire, ce déclenchement au pressing au milieu de terrain. C'est ça qui nous apportait au début de saison, qui faisait grand bien à l'équipe. Et on ne le voit plus du tout. Et dans les transmissions, ce n'est pas phénoménal. Donc, du coup, l'un dans l'autre, il fait des matchs qui sont d'une neutralité très inquiétante, je trouve. Et dernier, Kolo Muani, parce que je suis complètement d'accord avec Evzor. Et franchement, il fait peine à voir. T'as l'impression qu'il est là, mais qu'il a zéro confiance dans ce qu'il fait. T'as l'impression qu'il essaye de mettre l'intensité pour se bagarrer dans les ballons. Mais même dans ses contrôles, t'as l'impression qu'il se met dans des situations où, quoi qu'il arrive, il va devoir se bagarrer pour sortir du duel et que s'il sort du duel, ça sera bien. Alors que c'est lui qui s'est déjà mis dans la merde avec son contrôle. Enfin, franchement, là, sur ce match, enfin, on a parlé de Barcola beaucoup, mais Kolo Muani, il rate pratiquement tout, quoi. Il y a deux ballons sur trois, il les perd. Et t'as l'impression qu'il part dans cette espèce de chevauchée où il se prend tout seul le ballon dans les pieds, il va se perdre, et de temps en temps il rentre dans les mecs et dans les défenseurs parce qu'il maîtrise même pas ses courses. Enfin, là, au niveau technique, enfin, c'est chaud pour lui, quoi.
Ouais, c'est pas évident. Bon, vous savez, moi, ce que je pense de Kolo Muani, mais ouais, j'ai même pas envie de le mettre dans les flops, moi aussi, parce que le pauvre, là, ça commence à être compliqué pour lui. Après, moi, je suis moins positif que certains sur le fait qu'il va revenir et que c'est que mental, etc. Parce que pour moi, c'est aussi technique et le fait que ce soit pas adapté à ce que demande un entraîneur comme Luis Enrique. Et par rapport aussi à des adversaires, parce qu'en bloc bas, tu dois avoir une vraie qualité technique, une vraie justesse technique. Et pour moi, il n'a pas, même s'il n'est pas en confiance, je pense que même en confiance, il ne l'aurait pas forcément. Donc après, c'est que mon avis personnel. Mais dans tous les cas, je n'ai pas envie de le mettre dans les flops, j'ai pas envie de taper dessus. Et puis en plus de ça, son match n'a pas forcément été catastrophique comparé à d'autres matchs où je l'ai vraiment trouvé cata. Là, ce soir, bon, je l'ai trouvé mauvais, mais pas forcément dégueu non plus. Donc bon, on ne va pas trop taper dessus.
Je trouve qu'il est quand même plus intéressant sur le côté dans ce PSG-là, quand même, qu'en fait être régulièrement trouvé d'auge. Il a plus d'espace. En fait, quand il perd le ballon, c'est moins dangereux pour l'équipe aussi. C'est plus simple de contrôler un ballon quand tu es trouvé long de ligne que quand tu es trouvé d'auge avec de suite un défenseur qui suit, enfin, qui te suit, qui a ton marquage, etc. Mais après, c'est sûr que comme tu dis, techniquement, est-ce que dans ce football de Luis Enrique où tu as beaucoup de jeux courts qui se met en place, il est adapté? Non.
Ouais, mais non, non, mais non. Mais après, je vois un commentaire. Vous oubliez sa finale de Coupe du Monde. Ouais, mais en fait, si on doit baser tout ça sur une finale de Coupe du Monde où il joue 40 minutes, enfin, c'est un match, c'est hors du temps. Il y a des espaces, c'est pas le même adversaire. Enfin, tu vois, on peut pas baser ça et se dire, ah, ok, bon, bah, c'est bon. Alors, tous ces matchs sont cata, mais il y a eu une bonne finale de Coupe du Monde. Il y a eu des bonnes choses aussi à Francfort, en plus de ça, faut pas l'occulter. Il a joué très bien avec Francfort, mais c'est un championnat différent, il y a beaucoup d'espace, ça aide à ses qualités, parce que quand tu es un joueur qui a du déchet et que des fois ton contrôle il est à 1 mètre ou 2, bah, comme tu as de l'espace, bah, tu as le temps, avec surtout avec sa vitesse, d'y aller, de récupérer la balle et de pouvoir compenser ce déchet technique-là. Mais quand tu as peu d'espace, quand tu es avec le PSG face à des gros adversaires ou face à des adversaires qui te laissent peu d'espace, et comme en Ligue 1, bah, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ça la différence aussi avec la Bundes. Mais bref, on va pas s'attarder trop sur Kolo Muani. Moi, je voulais juste mettre en flop aussi, comme vous, Skriniar, parce que pour moi, Skriniar, quand je vois qu'il y en a qui sur cette même chaîne, voulaient de Skriniar par rapport à Danilo, je ne sais pas comment c'est possible. Vraiment, Skriniar, c'est très, très compliqué. Mais après, pareil pour lui, ce n'est pas une équipe qui est adaptée pour lui, c'est une équipe qui joue très haut, il faut être sûr techniquement, il faut avoir un peu de vitesse, être assez mobile. Et c'est malheureusement, c'est compliqué pour lui. Avec l'Inter, il y avait moins d'espace, ils jouaient plus proches les uns des autres, plus bas aussi. Donc forcément que ce n'est pas évident pour lui. Comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et je pense que le contexte parisien et la tactique et les rôles de chacun n'aident pas Colomouani et Skriniar. Et il y en a un troisième que je voulais mettre dedans. Ouais, c'est Ougarté, mais je pense que vous avez tout dit, malheureusement. Et malheureusement, en fait, ça n'aide pas l'équipe. Pourquoi ? Parce que Ougarté, il nous aidait sur le début de saison, il était exceptionnel, à récupérer des ballons très hauts. Et quand tu joues face à une équipe qui joue bas et qui très peu de fois se désorganise pour contre-attaquer, bah c'est important de récupérer le ballon rapidement et haut. Et derrière, ça te permet de pouvoir contre-attaquer et profiter qu'ils soient déséquilibrés le peu de fois où ils sont. Et comme Ougarté ne le fait plus, malheureusement, et qu'on n'a pas les joueurs pour le faire, comme Vitinha ou Kanguini, par exemple, bah forcément, on a moins d'occasions de déséquilibrer, de profiter de ce déséquilibre. Je vais y arriver. Et puis voilà, j'ai vu passer Lavezzi. Effectivement, Lavezzi a pris un coup de couteau dans une embrouille familiale, je crois. Il est hospitalisé, donc petite pensée à lui quand même. Et puis voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on clôture ça là-dessus?
Je suis en train de regarder un petit peu s'il n'y avait pas deux, trois questions.
Si tonton, tu as choisi des questions hors.
Je suis en train de les regarder, ouais. Ramos doit jouer la deuxième partie de saison. Bon, après, de toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on verra avec le temps. Malheureusement, pour le moment, sa première partie de saison n'est pas non plus réussie, même s'il a été beaucoup plus boycotté que les autres. Mais
ce qui est fou, c'est qu'avant ce match-là, Ramos a autant de minutes de jeu que Colomouani. Ça m'a choqué. Je m'y attendais absolument pas. Je suis allé sur Transfermarkt.
Avant le match de soir.
Et toute compétition confondue, les deux, ils ont à peu près 800. Je crois que Colo a 860 minutes. Et Ramos 810.
Après, Ramos ça enchaîne les trois premiers matchs de la saison titulaire parce qu'il y avait beaucoup d'absents et que Colo arrive tardivement. Donc, en fait, je pense que le jugement est faussé. Toi, tandis que Colo a démarré titulaire les 6 matchs de Ligue des Champions. Donc à voir maintenant. Maintenant, de toute façon, je pense que la trêve va faire du bien à beaucoup de monde. Concrètement, on a vu qu'on a un coach qui veut mettre en place certaines choses, qui est très. Très carré sur ce qu'il demande. On voit sur le côté, il parle beaucoup à ses joueurs. Donc, il y a un temps d'acclimatation pour tous les joueurs aussi. Il ne faut pas faire
de généralité. De conclusion
hâtive, exactement. Merci. En sachant que voilà, c'est un nouveau projet. Des joueurs sont arrivés, des joueurs sont partis. Le coach a changé totalement la façon de travailler au quotidien, la façon de jouer sur le terrain, parce que voilà, il y a beaucoup plus de séances aussi, on va pas se mentir, il y a très peu de temps de repos, il est très exigeant sur les séances d'entraînement, il y a le nouveau centre d'entraînement aussi qui fait que les joueurs sont beaucoup plus souvent ensemble, il y a plus de mise au vert, enfin, globalement c'est un nouveau mode de travail, mais faudra voir dès janvier en fait.
Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a juste un truc, il y a un scénario qui me fait peur et que j'ai l'impression qu'il se répète depuis 4-5 saisons, on va dire depuis Tourelle, deuxième saison de Tourelle. C'est le truc où en gros, tu as l'impression que le début de la première partie de saison, c'est bien. Fin de première partie de saison, ça commence à être un peu le bazar. Et on arrive en huitième de finale de Ligue des Champions. Et une semaine avant le match, on ne sait pas qui va être titulaire. On ne sait pas dans quel système il va jouer. On ne sait pas si l'équipe va être faite en fonction des blessures et des formes du moment. Et qu'on n'arrive pas au bon moment à plein régime. Et ça, j'ai l'impression que c'est un scénario qui se répète depuis 4 ans, où on a eu les blessures des Neymar, les machins, dans quel système on joue, et qu'on arrive toujours en 8e avec des questions. Et ça serait bien d'arriver en 8e avec quelque chose d'un peu costaud, quoi. Et j'ai peur qu'on arrive dans ce scénario où en janvier, il y aura Hakimi à la canne, on n'aura pas encore de titu, on aura encore des équipes qui changent comme ça tous les week-ends, et on va arriver au 8e et on ne va pas savoir ce qu'on veut, en fait.
Je pense que le sujet des dernières années, merci à Swapper pour les 5 euros, frérot.
Merci Swapper pour le don, comme d'habitude, hein, fidèle au poste, merci beaucoup. Et du coup, il dit Team Mbappé à gauche, Asensio Foneuf et Dembélé à droite, arrêtons avec Colo et Ramos. Moi, personnellement, je suis assez d'accord, même si au niveau d'Asensio ou Ramos, moi, un des deux me va, mais après les côtés Mbappé et Dembélé, je suis assez d'accord.
Oui, mais après, bon, pour finir ce que je disais, en fait, Bobo, la différence des autres saisons, c'est que j'ai l'impression aussi que Luis Enrique bouleverse beaucoup parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a. C'est-à-dire que lui-même ne sait même pas en fait quels sont les joueurs qui ont le niveau, entre guillemets, pour être en fait dans ce qu'il veut mettre en place. Tu sais en fait pertinemment que Marquinhos, Hakimi, Hernandez, Warren, Vitinha plus ou moins, parce qu'il est quand même sur de très bonnes perfs, Dembélé et Mbappé seront titulaires avec Donnarumma. Donc ça te fait quand même une base très solide. Mais tout le reste change tout le temps, parce que tu n'as aucun joueur qui sort du lot. C'est toujours moyen plus ou moyen moins. Et même, tu vois, dernièrement, j'ai l'impression que Skriniar est quand même vachement remis en cause. Et peut-être même que Danilo pourrait lui passer devant. Parce que sur les dernières prestations, Danilo est meilleur que Skriniar. Donc, je pense aussi que Luis Enrique change beaucoup, parce qu'il ne sait toujours pas quels sont les joueurs qui rentrent dans ses plans.
J'espère qu'il saura
Ouais, mais c'est pour ça que, comme l'a dit Bobo, à mon avis, on va se retrouver proche des huitièmes de finale en n'ayant pas la formule forcément gagnante et avec toujours autant de changements et d'incertitudes. Mais comme je te disais tout à l'heure, Kevzor, sur Twitter, à mon avis, par rapport à ce que demande Luis Enrique et ce que veut Luis Enrique, ça va prendre beaucoup de temps. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de mercato d'ajustement, de mercato où on va se tromper aussi. Et ça va mettre du temps à voir le jour vraiment ce projet-là avec une vraie équipe cohérente, comme a pu mettre Guardiola avec City. Il a mis 7 ans, Klopp a mis du temps aussi. Et donc, à mon avis, ça va mettre du temps. Et même cette année, je pense qu'il y a des joueurs qui ne le voulaient pas forcément. Donc voilà.
À Campos, c'est
Au niveau.
l'ancien de s'adapter à ce qu'il va demander, parce que c'est là en fait où je suis quand même inquiet, parce que je ne suis pas sûr que le portefeuille Jorge Mendes soit en adéquation avec ce que veut Luis Enrique.
Ouais, non, mais c'est clair. J'ai vu parler aussi des deux Brésiliens. Moscardo, c'est un milieu de terrain. Et il n'arrivera pas cet été, normalement. Cet hiver, il arrivera cet été. Peut-être même qu'il sera prêté encore une saison de plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'arrivera pas cet hiver. Et pour Beraldo, c'est un défenseur central. Hein, ce n'est pas un défenseur gauche, comme j'ai pu voir, ou un latéral gauche, ou comme l'a dit Canal aussi, complètement largué là-dessus. Mais c'est un défenseur central axe gauche, gaucher. Et lui, on ne sait pas encore s'il va arriver cet été ou cet hiver. Donc, à voir. Mais si vous voulez, Nix en a fait une vidéo. Sur la chaîne d'ailleurs, sur Paris Central, et j'en ai fait une aussi sur la mienne. Donc, si vous voulez aller voir, avoir plus d'infos sur ce mec-là, même Moscardo d'ailleurs, vous pouvez. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on clôture là-dessus?
Bon, je pense qu'on a fait le tour.
Kimpembe, j'ai vu, ouais, parler de Kimpembe, normalement, il va se faire réopérer. Il y a des chances qu'il se fasse réopérer. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. En plus, il est en fin de contrat cet été. Donc,
D'où la venue
voilà,
d'un
à mon
défenseur
avis.
central gaucher. Peut-être aussi que
Ouais.
tout est lié. On
C'est
en
peut-être
saura
la
plus, je
fin.
pense, dans les semaines à venir. Mais là, on n'a pas d'infos là-dessus. Moi, ça me fait vraiment chier. Si c'est le cas, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment chier, parce que j'ai été un très, très, très grand défenseur de Kimpembe. C'est un joueur que j'apprécie. Pour moi, c'était le futur capitaine du PSG.
C'est notre
Il
capitaine.
avait l'âme du PSG dans le sang. Et puis, ses prestations étaient très, très, très intéressantes avant sa blessure. Malheureusement, le football,
Kimpembe
c'est.
prolonge 2026.
Non,
Attends,
il n'a
c'est
pas.
où? C'est sorti là, les gars, ou...
Hein?
Vous savez où? Hein?
Attends,
Moi, je suis
attends.
pour.
Vous êtes sérieux, là?
Non, non,
Non,
il n'y
mais
a rien
c'est une
de.
blague.
C'est une
C'est
blague.
rien. Ok, bon, bah, merci, hein, nous avons fait perdre du temps pour rien. Bon, on va clôturer là-dessus. Je pense que tonton, tu peux clôturer tout ça. En tout cas, merci
Moi.
d'avoir été là, les amis. N'hésitez pas à liker ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, merci d'être toujours autant, comme d'habitude, même un mercredi soir, même pour un PSG Metz. Nous, en tout cas, on est là et on sera toujours là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker pour remercier le travail. Encore merci à Swapper pour le don. Et merci à Kevzor et Bobo d'avoir été là.
Passez de bonnes fêtes tous.
Big up.
Allez, ciao, ciao.
Ciao.